Bienvenue, merci d'être présent ce soir. On va ce soir continuer donc avec la 22e session du survol de la Bible en 24 sessions, 24 heures, la Bible en 24 heures. Et on va continuer avec l'Apocalypse, le début de l'Apocalypse. On va voir les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. La semaine prochaine, Dieu voulant, on finira l'Apocalypse et on fera un résumé la semaine suivante. Donc on a encore deux semaines. Là, on va voir un peu l'aspect prophétique de la Bible dont on a commencé à parler. On a parlé la semaine dernière de l'eschatologie, qui est l'étude des temps derniers, des derniers temps. On a vu qu'il y avait plusieurs passage dans la Bible qui parlait de ce sujet à maintes reprises, mais notamment dans l'Ancien Testament avec les prophètes comme Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, et Jérémie même. Et puis dans le Nouveau Testament, on a parlé du livre de Matthieu, où Jésus, notamment dans le discours du Mont des Oliviers, parle des derniers temps. Il y a aussi Paul qui parle de ces choses dans 1 et 2 Thessaloniciens. On a regardé ça. Et bien sûr, le grand ouvrage de la prophétie, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse, écrite par Jean. Alors, pour remettre les choses un peu dans le contexte historique, Jean, ça se passe à peu près à la fin du 1er siècle. Jean a été déporté sur l'île de Patmos, une île de la mer Égée. La tradition plutôt dit qu'en fait, il avait été condamné à être mis à mort en étant mis dans de l'huile bouillante, mais qu'il n'était pas mort. Donc l'empereur qui le persécutait avait décidé de l'envoyer perdu sur un rocher au milieu de la mer Égée. Et c'est là que Jean reçoit cette vision de l'avenir, du futur, qu'il transmet on va voir qu'il écrit à sept églises. Et en fait, on va voir que c'est Jésus lui-même qui écrit ces lettres et qui les dicte à l'apôtre Jean. On va avoir le temps de lire les passages ce soir parce qu'on n'a que trois chapitres à survoler. Donc je lis dans la version La Colombe, si quelqu'un a besoin, il y a encore des Bibles ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Le mot apocalypse veut justement dire révélation, dévoilement. Lorsque, par exemple, une statue était inaugurée, avant qu'on la montre au public, elle est couverte d'un voile. On tire sur une cordelette qui fait tomber le voile. Ça s'appelle une apocalypse. Et là, c'est un peu la même chose. C'est l'apocalypse de Jésus-Christ. Et c'est au singulier. Il y a une seule révélation. C'est la révélation de la personnalité de Jésus-Christ. Et il transmet par l'intermédiaire d'un ange cette révélation à Jean, l'apôtre. Et Jean, à son tour, va nous la communiquer. Et c'est le seul livre de la Bible qui a une promesse qui dit qu'on est béni si on lit et on écoute les paroles de la prophétie et qu'on garde ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on obéit à ce qui est indiqué. Donc, C'est dommage, dans beaucoup de milieux chrétiens, on ne veut pas toucher à l'Apocalypse parce qu'on dit que c'est un livre bizarre, qui a plein d'interprétations bizarroïdes et qu'il ne faut surtout pas se lancer là-dedans parce qu'on risque de ne rien y comprendre, de tout mélanger. Et c'est vrai qu'il y a... Il y a des gens qui font n'importe quoi avec l'Apocalypse. C'est un bon livre pour les sectes. On prend ça, puis on prend un petit passage et on s'affole dans un sens ou dans un autre. Mais en fait, la parole elle-même nous dit qu'on va être béni si on lit. Alors là, il était question de lire à haute voix, mais aussi d'entendre. Donc on le lise à haute voix ou qu'on le lise maintenant en silence. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit. Et puis il est dit, car le temps est proche. Alors c'est vrai que plus le temps passe, plus ce temps de la fin se rapproche. Mais ça veut dire aussi que lorsque les choses vont se mettre en route, ça va aller très vite. Là c'est le mot... comme tachycardie, c'est un débattement de cœur rapide. Ça veut pas dire que ça allait se passer le lendemain quand Jean a parlé, mais ça veut dire que quand les événements vont se mettre en route, ça va se dérouler très rapidement. Voilà, Jean écrit donc aux sept églises qui sont en Asie. L'Asie, c'est pas la Chine, l'Inde. Il est question ici de l'Asie mineure, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la Turquie occidentale actuelle. Et il va s'adresser à sept églises. Sept églises. Donc il va y avoir l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et si vous regardez sur une carte, vous pouvez peut-être même regarder si vous avez une carte à la fin de votre Bible. Souvent, elles sont représentées, pas toujours. Non, là, sur la mienne, ça n'y est pas. Mais il est bon de savoir qu'en fait, l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la suite du texte, dans les chapitres 2 et 3, c'est comme un ordre géographique. C'est-à-dire que si vous commencez par Éphèse et que vous faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez... Vous allez passer d'abord à Éphèse, et puis ensuite à Smyrne, ensuite à Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et... c'est sept églises, non seulement elles représentent une réalité qui est locale de l'époque, il y avait sept églises, on a retrouvé les vestiges, on a retrouvé les ruines, on sait par la tradition, par d'autres écrits, qu'il y a vraiment eu sept églises qui existaient à l'époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sept églises, elles représentent aussi toutes les églises de tous les temps, dans le sens où on va voir qu'elles ont des qualités et des défauts qui peuvent être... trouvés dans les églises de tous les temps. Et d'autre part, ces sept églises, elles représentent un âge de l'église. On va voir que, par exemple, la première, l'église d'Éphèse, c'est l'église qui correspond à l'église du 1er siècle. C'est l'église à la fin de l'église du 1er siècle. Donc, l'église a été instituée. Et là, c'est ce qu'on appelle encore l'église primitive, mais c'est la fin de l'église primitive. Et puis l'église de Smyrne, on va voir que c'est l'église du 2e, 3e siècle avec des persécutions intenses contre la foi chrétienne. L'église de Pergame, ça va être, on va les voir au fur et à mesure. Et donc, historiquement, il y a aussi un âge de l'église. Donc c'est très riche. Et il y a beaucoup de choses à retirer de cette étude de ces sept églises. Mais on va revenir au verset 4. Donc c'est Jean qui écrit aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Là, on a déjà un aperçu de la Trinité. Celui qui est, qui était et qui vient, c'est Dieu le Père. Les sept esprits qui sont devant son trône, ça fait allusion à l'Esprit Saint. Si vous voulez vous tourner avec moi, on va regarder dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset, on peut dire 1 déjà, page 680. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ce rameau, on y reviendra dans l'étude d'Ésaïe, c'est la souche du peuple d'Israël. Isaïe, c'était le père de David. Donc le rameau qui va sortir du tronc de la famille de David, c'est Jésus-Christ, le Messie. Et le rejeton de ses racines fructifiera, Jésus. Deuxièmement, 2, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur oui dire, mais jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'arbitre. » En fait, on voit que là, l'Esprit est répété sept fois. Il y a l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est aussi un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de vaillance, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Ça, c'est des caractéristiques de l'Esprit Saint. Et c'est dans ce sens qu'on peut lire la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et puis, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, donc on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, Jean invoque la grâce et la paix qu'elles viennent du Père, du Fils et du Saint-Esprit et du Fils. Le Fils, Jésus-Christ, est présenté comme le témoin fidèle. Le témoin fidèle, le mot témoin, c'était le mot martus, qui nous a donné le mot martyr, parce que souvent, pour être témoin fidèle, il faut être prêt à souffrir. Même peut-être que pour parler de votre foi au travail ou avec des collègues, c'est pas évident. Il faut souffrir un peu, il faut prendre le risque d'être pris pour un imbécile, de quelqu'un qui est tombé dans une secte. Cet aspect du témoignage et de la souffrance, c'est quelque chose qu'on peut vivre plus ou moins, de façon plus ou moins radicale, de façon plus ou moins forte, mais il y a toujours cette notion de lorsqu'on témoigne, on risque d'être rejeté, sinon persécuté. En ce moment, il y a un nouveau rapport de la Commission sur les sectes et le jugement. L'Église de Scientologie va passer en jugement et on reparle des sectes et des dérives sectaires. Ne soyez pas surpris si on vous dit « Mais ton Église, c'est des catholiques ou des protestants ? C'est des évangéliques. Les évangéliques, c'est des sectes. » Alors, ça peut être la persécution. Je vous avais dit qu'en fait, portes ouvertes, le ministère qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde, donne aussi des séminaires, on va sans doute en organiser un l'an prochain, des séminaires sur comment faire face à la persécution qui risque d'arriver. Savoir comment on doit prier, comment on doit témoigner. Mais voilà, donc Jésus, c'est pour être le témoin fidèle. Il est le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. C'est lui qui a été ressuscité d'entre les morts, le premier, il est le premier fruit, et il est le souverain des rois de la terre, il est le roi des rois. C'est lui qui nous a... Ce verset, la fin du verset 5 est très, très belle. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous aime et ça l'a conduit à nous délivrer de nos péchés en versant son propre sang. Il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Les rois et les prêtres, il n'y en avait pas beaucoup. Soit on était roi, soit on était prêtre. Je vous ai parlé du roi Ozias qui avait voulu officier dans le temple, une tâche qui était réservée aux prêtres dimanche dernier, et qui avait été puni par la lèpre, parce que c'était un blasphème. Et on avait dit que les seuls... Il y avait quelques personnes qui avaient été à la fois rois et prêtres. Il y avait un personnage mystérieux qui s'appelle Melchizedek, le roi de justice, Melchizedek, qui est apparemment Jésus et lui prêtre dans l'ordre de Melchizedek. On en avait parlé en son temps, en regardant la Genèse. Et puis, bien sûr, le seul qui soit vraiment roi et prêtre, un sacrificateur, c'est un prêtre. Hein, c'est un terme vieilli parce que, à ne pas confondre avec scarificateur. Sacrificateur, je n'aime pas ce terme parce que c'est un prêtre. C'est plus simple. Et il avait... Jésus est à la fois roi des rois. Il est le grand prêtre qui est entré une fois dans le Saint des Saints, une fois pour toutes, etc. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est remarquable, c'est qu'il a fait de nous, nous aussi nous sommes des rois et des prêtres. Des rois, un jour on va régner avec lui. Et le prêtre, quelque part, c'est quelqu'un qui servait de relais entre Dieu et le peuple, entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et Dieu. Maintenant, si on est tous des prêtres, on n'a plus besoin d'avoir des pasteurs ou des prêtres pour avoir accès à Dieu. Tous, si vous êtes venus à Christ, vous avez accès au trône de la grâce. Quelquefois, les gens vous disent « Oh, moi, tu peux dire une prière pour moi ?» Je dis « Non, je peux, bien sûr, mais tu peux le dire aussi bien que moi. Ta prière a autant de poids si tu es sauvé, si tu es en Christ. Il n'y a pas des gens spécialistes qui ont plus de poids au niveau de la relation avec Dieu. Et donc, nous pouvons amener des gens à Dieu, leur parler de Dieu, mais l'idée, c'est pas de rester en place et de faire payer un droit de passage ou de faire payer par un statut privilégié. On veut simplement être des témoins pour que les hommes viennent à Dieu en leur parlant de ce que Dieu nous a donné, et c'est en ce sens que nous sommes des prêtres. Pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Ces expressions, des fois, on les survole un peu parce que c'est tellement... des mots tellement puissants que on les lit sans vraiment essayer de s'imprégner du sens. Mais la gloire, on a dit, la doxa, c'était ce qui est lourd, ce qui était réel. Le pouvoir, c'est le pouvoir de créer, c'est le pouvoir de ressusciter. Et ça, c'est pour toujours qu'on lui reconnaisse cette puissance et cette gloire, cette éternelle. C'est une invocation de Jean. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Ça, c'est tiré du prophète Zacharie, et ça parle du retour du Christ. Encore une fois, on a dit qu'un verset sur 25 dans la Bible parle du retour de Christ. Dans l'Ancien Testament, il y avait à la fois des prophéties sur sa première venue, mais aussi sur son retour. Et on a expliqué souvent, à plusieurs reprises, que dans l'Ancien Testament, souvent les hommes ne comprenaient pas que ce Messie triomphant devait souffrir. Ils s'attachaient à la prophétie du Messie triomphant et ne voulait pas entendre parler d'un serviteur qui devait souffrir. Mais c'est la même personne, c'est le même Jésus qui doit faire ces deux choses. Et ça nous dit donc qu'un jour, tout le monde verra Jésus-Christ. Mais là, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui ont contribué à ce qu'il soit crucifié, tous les hommes, nous aussi, qui l'avons, moi j'ai contribué à ce qu'il soit crucifié par mon péché. Si j'avais été tout seul sur la terre, je peux être sûr qu'il serait mort pour essayer de me sauver. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Ça aussi, c'est dans Zacharie. Toutes les races, toutes les groupes ethniques se lamenteront à son sujet quand ils réaliseront qu'en fait, ils ont rejeté ou ils ne l'ont pas considéré. Ce sera une réalisation de « qu'est-ce qu'on a fait ? C'est terrible, on était complètement à côté de la plaque, on se moquait de ces chrétiens, on se moquait de ses amis à la fac qui nous parlaient du GBU ou de Christ, et oh là là !»« Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga, c'est le premier et le dernier. Tout ce qui existe, c'est l'alpha et l'oméga. Celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Alors là, on peut penser peut-être que c'est le Père ou le Fils. On verra plus loin que le Fils aussi se décrit comme l'alpha et l'oméga. Donc c'est à la fois le Père et le Fils qui règnent. Voilà, donc ça c'était l'introduction de Jean, et puis il dit « Moi Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, c'est-à-dire je fus emporté brutalement, translaté, on pourrait dire zappé, mais il se retrouve en esprit au jour du Seigneur, donc c'était le dimanche, c'était déjà à l'époque les chrétiens avaient commencé à célébrer un culte particulier le dimanche, et ils appelaient ça le jour du Seigneur, par opposition au sabbat, qui restait le samedi. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et donc on va voir la vision que Jean a de Jésus-Christ, qui lui dit, donc une voix forte, on retrouve des éléments de description prophétique qu'on trouve par exemple dans le prophète Daniel, qui fait des descriptions du trône de Dieu, qui décrit aussi la voix comme des eaux puissantes. Il y a la petite voix du Seigneur, vous vous souvenez de lorsque Samuel entendait la petite voix du Seigneur, lorsque Élie s'attendait à entendre la voix de Dieu dans le tonnerre, dans le tremblement de terre, dans le feu, et en fait c'était le son doux et subtil de sa voix, le doux murmure de sa voix. Mais Jésus peut parler dans tous les sens, et là, il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Il se retourne pour découvrir la voix qui lui parlait. « Après s'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient rougis comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix, encore une fois, était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Il y a à peu près 400 références à des passages de l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas pour rien si ça se trouve à la fin de nos Bibles. C'est parce qu'en fait, pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut avoir lu et plus ou moins compris tout ce qui précède. Il y a des tas de références. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer à lire ça avec de l'aide, mais ça va faire référence à tous, à des tas de choses dans l'Ancien Testament. Et là, on a une description qui ressemble beaucoup à Daniel. On peut regarder Daniel 7. Verset 9, page 883. Ça, c'est Daniel qui a une vision, le prophète Daniel, et il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait devant et sortait de devant lui, etc. Mais on voit déjà les vêtements blancs comme la neige, les cheveux de sa tête qui étaient purs comme de la laine. On revoit la même genre de description dans la vision de l'apôtre Jean. L'expression « fils d'homme » qu'on trouve beaucoup dans Marc et Luc, le « fils de l'homme », c'est en fait utilisé pour la première fois dans le prophète Daniel. Et Jésus est à la fois le Fils de Dieu et il est aussi homme complètement. C'est un mystère, il est à la fois Dieu complètement et à la fois homme complètement. Et c'est en ce sens qu'il est vu ici comme un fils d'homme. Il faut vous souvenir qu'en fait, Jean connaissait bien Jésus lorsque Jésus, avant qu'il ne soit crucifié, c'était l'apôtre, un des apôtres qu'il préférait. Et là, il est frappé par cette vision de Jésus. Je me souviens avoir étudié dans une classe à l'église à Seattle, l'Apocalypse, et cette personne, après avoir étudié l'Apocalypse, avait vu en rêve, une vision de Jésus. Et elle avait été vraiment bouleversée. Et imaginez Jean qui voit cette personne, cette puissance qui est là. Il a le réflexe de tous les hommes qui rencontrent Dieu ou qui le voient en partie, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le comprendre et le voir et vivre, c'est-à-dire le voir complètement, réaliser toute sa puissance. Mais quand il le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Et c'est là que Jésus lui dit « Sois sans crainte, moi je suis le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant, j'étais mort, me voici vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il lui dit de décrire ce qu'il va lui dicter. Donc on a dit qu'on n'avait pas fini les lettres, les épîtres, quand on avait fait les épîtres de Paul et les épîtres, ce qu'on appelle des fois les épîtres générales ou catholiques, dans le sens où elles s'appliquent à toutes les églises. Parce qu'il y a encore sept épîtres dans l'Apocalypse. Il y a sept lettres. La Bible est toujours le meilleur commentaire sur elle-même. Il y a des fois les gens qui disent « On ne sait pas ce que c'est que ces chandeliers d'or. » En fait, c'est expliqué. Les sept chandeliers sont les sept églises. Il y avait des étoiles aussi qui étaient dans la main droite de Jésus. Hein, dans le verset 20. Et là, il est dit que ces sept étoiles sont les anges des sept églises. Le mot ange, on a tendance à voir les chérubim ou les séraphim dont on a parlé avec Ésaïe. Mais le mot ange, ça veut simplement dire celui qui est envoyé, le messager. Et certains voient dans ce titre des anges, ça aurait pu être le responsable des églises locales. Et on va voir ensuite au verset 2 du chapitre, verset 1 du chapitre 2, que Jésus tient les sept étoiles dans sa main droite et il marche au milieu des sept chandeliers d'or. Jésus est présent dans ces églises, ou du moins il est au milieu, il est prêt. Et il a une grande main, Jésus. Dieu a mis en orbite les galaxies du bout de ses doigts. On peut lire, c'est toujours très intéressant de regarder l'astronomie, de considérer les distances, les années-lumière, les galaxies, et de voir qu'en fait, c'est l'œuvre des doigts de Dieu. Et on a vu en étudiant Colossiens que Jésus a été impliqué comme créateur, de l'agent de la création. Donc, lorsque on voit les sectes, on voit les fausses religions, on peut se dire, oh là là, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? On n'a pas de souci à se faire. On va peut-être avoir des périodes difficiles, mais Jésus bâtit son Église. Et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Soit on doit... Ça fait du bien parce que des fois on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on voit la montée de l'islam de plus en plus. Bientôt ça sera la République islamique française. Et sérieusement, il y a des gens qui se disent, bon, ben, la foi chrétienne, elle va être balayée. Non. Dieu bâtit son Église, Jésus bâtit son Église. Il n'y a pas de souci à se faire. Si on est de son côté, on est du côté qui va gagner. Amen. Alors, on va regarder maintenant les sept églises dont il est question. Et il y a le nombre sept qui va revenir. Pourquoi cette église? Parce que ce n'était pas huit, ce n'était pas six. Mais aussi parce que souvent dans la Bible... Le nombre 7, c'est le nombre de quelque chose qui est complet. Nous-mêmes, on a essayé, sous la Révolution, de faire une semaine de 10 jours. Ça n'a pas marché. C'est 7 jours. La gamme musicale, la gamme tempérée, il y a 7 notes. Et dans la Bible, on voit souvent des structures basé sur le nombre 7. Là, il y a 7 églises. Et on va voir que pour chacune des églises, il y a une description qui fait intervenir 7 éléments. Alors, on va lire déjà le début du chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, on voit d'abord, il y a le nom de l'église. Le nom de la première église dont il est question, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, encore une fois, c'est une église qui a existé historiquement. Paul a même écrit une lettre aux Éphésiens, aux chrétiens de cette église. Le nom de chaque église a une signification en rapport avec sa situation spirituelle. Donc il y a d'abord le nom de l'église. Ensuite, il y a une description de Jésus-Christ qui reprend ce qu'on a vu dans la vision que Jean a eue de Jésus sur l'île de Patmos. Ici, il est dit que c'est celui qui tient les sept étoiles et qui marche au milieu des sept chandeliers. Donc celui qui tient les anges, les responsables de ces communautés et qui est parmi elles. Ensuite, donc ça fait deux éléments. D'abord le nom, ensuite une caractéristique de Jésus qui s'applique à cette situation locale particulière. Ensuite, on voit ici des compliments. Jésus dit « Je connais tes œuvres, tu bosses bien ». Travail, tu persévères, tu ne peux pas supporter les méchants, tu ne t'accommodes pas des gens qui trichent, des gens qui sont mauvais, des gens qui font du mal. Tu as même testé ceux qui prétendent être des apôtres et tu as vu quand ils étaient menteurs, tu les as détectés. Tu as de la persévérance, il répète. Tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Donc des éléments très favorables. Des compliments. Et puis il va y avoir ensuite tout de suite un reproche. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Donc ensuite c'est après ce compliment, il y a un reproche. Et puis un remède pour corriger ça. Il y a la correction. Qui est « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, c'est-à-dire fais demi-tour et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc, l'église d'Éphèse était une église qui avait une grande influence. Paul avait travaillé là-bas, Timothée avait été là-bas, Apollos aussi. Mais elle avait résisté aux épreuves, aux faux docteurs, aux faux apôtres. Elle travaillait dur. Mais Jésus a un reproche. Elle a abandonné son premier amour. C'est-à-dire ça nous montre qu'on peut perdre l'intimité avec le Seigneur dans le travail d'église. Dans le travail religieux, on peut se laisser emporter, dériver loin de la relation intime avec Jésus. On peut faire tellement de travail religieux qu'on oublie la raison de ce travail religieux. Alors on peut dire, ah oui, c'est vrai, on pense à tel groupe, à telle église, mais je dois prendre ça. Une chose qui est très importante, c'est que il est dit, verset 7, on va y revenir, mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire qu'on est invité à écouter ce que Jésus va dire sur les autres églises. Pas seulement sur, ah tiens, je suis à Éphèse, j'écoute ce qu'il me dit et c'est bon. Non, il faut voir ce qu'il dit aux autres parce que, comme je l'ai dit au début, ça décrit un peu tous les dangers et les bonnes choses comme les mauvaises choses dans toutes les églises de tous les temps. Et puis ça, il y a aussi l'aspect historique qui décrit des grandes périodes de la chrétienté, de l'histoire du christianisme. Il lui dit donc, tu fais des bonnes choses, mais tu as un problème, tu as abandonné ton premier amour. Et est-ce que la question, encore une fois, c'est pas on est béni, hein, le verset 3 du début, ceux qui gardent ce qui s'y trouve écrit. On peut dire, ah, c'est intéressant, c'est historique, ça donne plein de détails, mais c'est pour moi aussi, individuellement, pour des églises, mais aussi pour moi, est-ce que j'ai perdu mon premier amour? Est-ce que je suis toujours aussi heureux de passer du temps avec Jésus, de prendre ma Bible et de partir dans un coin lire la parole, ou est-ce que je suis tellement occupé à préparer un sermon que je vais lire des commentaires, que penser à ce que je vais dire plutôt qu'à recevoir de Jésus et lui dire combien je l'aime. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Le remède, la façon, c'est de se rappeler comment on a commencé dans la foi et de se dire, ah oui, c'était merveilleux. Peut-être que tous les matins, je prenais une heure où je partais me promener avec ma Bible, où je priais, où je retrouvais quelqu'un. Refaites les œuvres que vous avez commencé à faire au début de votre vie de chrétien, là où vous étiez plein de joie, de fraîcheur dans votre relation avec Dieu, c'est possible. Sinon, il menace d'enlever l'église d'Éphèse, de la balayer, elle n'aura plus d'influence, mais toujours cette option de se repentir, de revenir, de retrouver ce premier amour. Il fait un compliment. Ils ont de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Alors, on n'est pas trop sûr. Il n'y a pas de réponse claire, historique, sur qui étaient les Nicolaïtes. Certains parlent d'une secte qui habite dans la région. Mais si on regarde l'origine du mot Nicolaïte, Nikos, c'est la victoire. Nice, c'est Nikéa, c'est la ville de la victoire. Nico, laïte, ça vient de Laos, le peuple, c'est-à-dire ceux qui dominaient le peuple. Et ça fait penser à ceux qui avaient réinstitué une prêtrise, où il y avait des gens qui dominaient le peuple. Le peuple n'avait pas accès à Jésus. Et apparemment, ils ont combattu cette prêtrise que certains voulaient réinstaurer. Peut-être probablement vis-à-vis de ce qui s'était passé à l'Ancien Testament. Mais depuis que Jésus était mort pour tous les hommes, il n'y avait plus besoin d'avoir un clergé au sens traditionnel du terme, où il y a le clergé et le monde séculier. Les prêtres sont au-dessus des hommes. Et puis il y a un grand prêtre, le pape, qui permet d'avoir accès à Jésus. Apparemment, ça, c'est pas du tout biblique. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. On a vu donc, premièrement, une description de un nom d'église, un titre une description de Jésus qui s'applique à la situation de cette église, un compliment, un reproche, une correction pour ce reproche. Cette exhortation qui va revenir à chaque fois, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis, une promesse au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça aussi, ça fait bien sûr, ça vous rappelle le tout début de la Bible, la Genèse. Et on verra la semaine prochaine le parallèle, comment la Genèse et l'Apocalypse correspondent. Vraiment comme une ouverture et une fermeture, il y a des choses qui sont déclenchées dans la Genèse, qui sont terminées dans l'Apocalypse. Il y a vraiment une unité remarquable. Et le vainqueur, celui qui restera fidèle, qui reviendra à son premier amour, il mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est, si on en mange, on vit éternellement. Et vous vous souvenez que dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, des anges avaient été mis pour garder l'accès à l'arbre de vie. Et on pense que c'est parce que Dieu ne voulait pas que des hommes dans un état de péché puissent être éternels dans cet état. Mais là, une fois que Jésus est mort et qu'on peut être purifié, là, au vainqueur, il va donner à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Encore une fois, historiquement, c'était l'Église du 1er siècle, la fin du 1er siècle, et Jésus les reprenait déjà en disant « vous êtes refroidis, vous n'avez plus ce premier amour, ce premier zèle ». Et la question c'est, est-ce que moi aussi j'ai pas perdu de la vigueur dans ma relation, de l'amour, de l'excitation, de la joie à aller parler de Dieu, à étudier la parole, etc. Et on va passer à la deuxième. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici que le diable a jeté quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Smyrne, le mot vient du même mot que la myrrhe, l'encens, la myrrhe. C'était une herbe amère, et là, il est visiblement de persécution. Ça, c'est l'église du 2e et 3e siècle qui a subi la persécution historiquement. Et là encore, il va la description de donc le titre de l'église Smyrne, la description de Jésus, c'est celui qui est le premier et le dernier. Donc ça reprend le verset 17 du chapitre 1, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Ça c'est le verset 18. Je connais ta tribulation. La tribulation, c'est les épreuves, les souffrances. Ça vient du mot qui désignait la herse qu'on faisait passer sur les blés pour faire séparer le grain de l'ivraie, plutôt le grain du son des herbes, recueillir que la graine. Mais c'est le mot tribulation, c'est une souffrance très, très forte, prolongée. Ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Vous allez voir que dans chacun des cas, même pour le premier, l'Église est un peu surprise par le jugement de Dieu, de Jésus. Qu'on pense qu'on va bien, et souvent on a un mauvais jugement de notre propre situation. Et ça doit être une invitation à laisser l'Esprit Saint nous examiner, nous montrer ce qui va, ce qui ne va pas. Des fois, on peut être, et vous connaissez tous des gens qui sont comme ça, des gens qui font très bien, ou des élèves qui font très bien, pas mal du tout, mais qui se disent « je suis nul ». Et au contraire, il y en a d'autres qui ne sont pas très forts, mais qui pensent qu'ils ont tout bon, etc. Et ça, c'est un manque de discernement, c'est un manque de maturité. Mais dans le cas de toutes les églises, là, on va voir que généralement, les églises sont surprises. Et ça doit nous préparer. Est-ce que je vais être surpris parce que Jésus va dire de moi ? Notre église d'abord, mais de moi. Voici ce que je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc, c'était une église pauvre. Les premiers siècles, il n'y avait pas encore de grands bâtiments, de cathédrales. Mais Jésus leur dit, vous êtes riches. Pas riches matériellement, mais riches spirituellement. Vous avez, il leur dit qu'il il connaît aussi les calomnies dont ils sont l'objet, qui sont une synagogue de Satan, donc des juifs qui en fait se disaient vraiment les croyants en Dieu, mais il les appelle une synagogue de Satan. Ça, c'est le compliment, donc. Il les encourage, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous afin que vous soyez éprouvés, testés, mais vous aurez la tribulation de 10 jours. On pense que ces 10 jours, ça fait référence à 10 séries de persécutions qui ont lieu entre la fin du 1er siècle et le début du 3e siècle, quand l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Soyez fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Ici, il n'y a pas eu de reproche à cette église qui est l'église persécutée qui souffre. Et puis la promesse, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. On dit qu'on doit naître de nouveau. Quand on est naturellement, on est une première fois. Il y a un petit Josué qui va naître bientôt, physiquement. Et on espère que très, très vite, il pourra naître spirituellement. Il faut être né de nouveau, né d'en haut, selon l'expression de Jean dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et il y a une première mort physique. Et puis il y a une deuxième mort, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Jésus, d'avec Dieu. Et là il dit, si vous naissez une seule fois, vous mourrez deux fois. Mais si vous naissez deux fois, vous ne mourrez qu'une fois. Ça c'est un théorème pour les matheux. Simplement ça veut dire que si vous n'avez que la naissance physique, vous n'êtes jamais né de vous de nouveau. À ce moment-là, vous allez non seulement mourir physiquement, mais au jour du jugement, vous serez mort éternellement, c'est-à-dire séparé éternellement d'avec Dieu. Par contre, si vous êtes venu à Christ, vous êtes né de nouveau, vous avez eu deux naissances, la première, la physique, et ensuite la spirituelle, alors vous mourrez peut-être physiquement une première fois, si ça ne se passe pas pendant l'enlèvement d'Église, mais la deuxième mort ne vous touchera point. Ça, c'était l'église persécutée, et donc il passe ensuite à l'église de Pergame. 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Tu sais, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi un reproche, cette fois-ci, certains griefs. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Pergame, le nom veut dire, vous reconnaissez le mot gamme comme monogame, bigame, c'est le mariage, et c'est le mariage pervers ou le mariage mixte. Ça fait allusion à l'Église qui a suivi la conversion de l'empereur Constantin, qui lui a ajouté à la foi chrétienne des tas de pratiques païennes. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on mélange tout. Et l'idée, par exemple, c'est de dire, plutôt que de dire aux gens qu'on ne va plus faire la fête quand les jours commencent à rallonger, on va dire que c'est l'anniversaire de Jésus. C'est la date de sa naissance. Donc on va célébrer Noël. Et comme ça, les gens qui ont l'habitude de faire la fête à Noël, ils feront la fête, mais on leur dira que maintenant c'est pour Jésus, l'anniversaire de la naissance de Jésus. À Pâques, on a dit que les gens célébraient aussi la renaissance de la nature, les plantes qui repoussaient, qui reverdissaient, etc., par des offrandes d'œufs qui symbolisaient la vie. Il se trouve que Jésus est ressuscité au printemps, donc on a syncrétisé, c'est-à-dire qu'on a mélangé la fête spirituelle avec les pratiques païennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on décore encore des œufs, on offre des œufs. Après, les chocolatiers s'y sont mêlés pour faire de l'argent, donc les œufs en chocolat, etc. Et c'est un mélange de foi et de choses païennes. Et ça, c'est un espèce de mariage mixte. Il fait allusion dans ses reproches. Il leur fait des compliments. Ils n'ont pas renié leur foi. Même quand il y a eu des persécutions pour un certain Antipas, on n'est pas sûr exactement de son identité, ou c'est simplement un reste de chrétien qui était fidèle. Mais il y a un reproche. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Balaam, c'était, vous vous souvenez peut-être, ce personnage étrange qui voulait maudire pour le roi Balak, le peuple d'Israël, mais quand il essayait de dire des malédictions sur le peuple d'Israël, il sortait des bénédictions. Et finalement, il a trouvé le moyen de faire tomber les Juifs, c'était d'amener des jeunes filles pour qu'ils se livrent à la débauche. Et donc c'est un Balaam, il y a la doctrine, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où il est question, c'en est un. Il est des fois question, Pierre parle aussi de l'hérésie ou de l'enseignement de Balaam. Et là aussi, parmi ces gens qui n'étaient pas vraiment sauvés, il y avait encore certains qui se livraient à des pratiques païennes, à des débauches. Et puis, il y a aussi des gens qui faisaient la même chose avec les Nicolaïtes, si tant est que ce soit la bonne explication, des gens qui dominaient, qui avaient la victoire sur le peuple, donc des gens qui érigeaient une prêtrise, qui faisaient un intermédiaire entre Dieu et le peuple. La description de Jésus, c'était l'épée aiguë à deux tranchants. Ça nous rappelle Hébreux 4, 12, qui parle de la parole de Dieu, qui est une épée acérée, plus coupante qu'aucune épée à double tranchant, séparant la moelle des tendons, etc., qui permet le discernement. La parole de Dieu, c'est ça qui va purifier l'Église qui s'est instaurée sous Constantin, qui a mené à l'Église moyenâgeuse, qui est la suivante. Et donc Jésus menace de la promesse, plutôt menace de venir combattre avec l'épée de sa bouche, au verset 16. Et après avoir appelé à bien faire attention à ce qu'il vient de dire, au vainqueur il y a cette promesse d'un caillou blanc avec un nom nouveau que personne ne connaît, ce nom celui qui la reçoit. Et ça, on peut voir comme un signe d'intimité. Lorsque quelqu'un vous appelle par votre petit nom, ou un nom qui est simplement entre vous, c'est un signe de relation unique entre vous et l'autre personne. Abraham est devenu Abraham. Et il y a plusieurs passages de personnages qui ont changé de nom. Sarai est devenue Sarah. Avec un sens particulier à chaque fois. Donc, on suit par l'église de Thyatire. Et là, beaucoup voient dans cette église l'église catholique, parce que le mot de Thyatire veut dire sacrifice perpétuel, par opposition à l'enseignement qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, où il est dit que Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes. L'Église catholique enseigne qu'à chaque fois, la messe, c'est en fait un sacrifice, et qu'il y a un phénomène mystico-pseudo-spirituel où le pain et le vin redeviennent le corps de Christ et qu'on offre en sacrifice de nouveau le corps et le Christ de Jésus. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Pas facile à dire. Et ça, c'est une doctrine qui est encore enseignée dans le catéchisme de l'Église catholique. Et ce sacrifice perpétuel, voilà ce qu'il est dit. Voilà ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à du bronze. Le feu, le bronze, c'est le métal du jugement. Le feu, c'est aussi le jugement. Il va leur faire des compliments. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc il parle, il parlait à l'église locale à l'époque, mais on peut voir aussi l'église catholique qui est sortie du Moyen-Âge jusqu'à la Réforme. Et l'église catholique est connue pour ses œuvres, ses bonnes œuvres. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont le fruit d'un travail d'initiation de pionniers de l'église catholique. Les écoles, les plus grandes universités, mais ça c'est différent parce que c'était des protestants ou des chrétiens non catholiques, mais les universités au Moyen-Âge, souvent c'était des universités catholiques. Il y avait beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de services, il y a de l'amour, de la foi. Les œuvres vont de plus en plus, ils font de plus en plus, mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, c'est que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il reconnaît qu'elles font beaucoup de bonnes choses. Il y a une foi, il y a du service, il y a de la persévérance. Mais il y a cette histoire avec la femme Jézabel. Alors Jézabel, si vous vous souvenez, dans le livre des rois, c'est elle qui était la femme, elle était une princesse de Sidon, un peuple païen, et elle était mariée au roi Achaz, qui était un roi faible, qui avait à un moment qui avait voulu... il voulait la vigne d'un certain Naboth, et sa femme lui avait dit, mais tu es le roi, pourquoi tu... L'homme voulait refuser de le vendre le vignoble au roi, et elle lui avait dit, mais c'est toi le patron, c'est toi le roi, tu peux le... Et elle avait fait mourir l'homme pour pouvoir prendre son terrain, et elle est restée dans la Bible comme un symbole de... Elle était aussi connue pour sa façon de séduire les gens. Donc elle est restée comme un symbole d'immoralité et d'idolâtrie. Et elle parlait de viande sacrifiée aux idoles. Il va la jeter dans une grande tribulation. Et tous ceux qui se livrent à... Donc c'est tout ce qui est de l'idolâtrie. Et on sait que dans l'Église catholique... Alors, si on continue dans cette histoire de l'Église à travers les siècles, il y a beaucoup d'idolâtrie, dans le sens où il n'y a pas longtemps dans une église typique, il y a 2-3 jours, on visitait dans une petite église en Provence, et il y avait le maître autel, l'autel destiné à Dieu, mais après, chaque côté, il y a 6 autels. Il y a un hôtel pour Jean-Baptiste, il y a un hôtel pour Sainte Ursula, il y a un hôtel pour... il y a le culte des saints, une abomination aux yeux de Dieu. On ne doit pas offrir un culte qu'à Dieu lui-même. Il y a tous les saints, il y a tous les rituels. Donc ça, Jésus est celui qui vient juger... Par contre, parmi eux, il y en a qui n'ont pas connu ces choses qui sont des profondeurs de Satan, des mauvaises choses. Et ça, ça nous dit, et je crois que c'est peut-être certains d'entre vous, je crois qu'on peut être sauvé dans l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en tenir au culte de Jésus, pas le culte de Marie, ça c'est l'autre, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, les saints et la Vierge Marie. La pauvre Vierge Marie, elle doit se retourner dans sa tombe lorsqu'elle voit le culte que l'Église catholique lui rend. Ça, c'est absolument, absolument pas biblique. C'est un héritage des religions païennes de la mère et de l'enfant. Si vous allez au Cap Ferrat, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a une statue énorme d'une trentaine de mètres, où c'est une jolie randonnée en faisant le tour du Cap. Mais d'un seul coup, on tombe sur une statue de 30 mètres. C'est la Vierge Marie qui est là, représentée avec un petit Jésus dans ses bras. Et c'est une hérésie, c'est une abomination. Mais il y en a qui ne font pas ça et qui mettent leur foi en Jésus. Et il leur dit, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et il associera donc les catholiques sauvés dans cette vision des choses au règne avec lui quand il reviendra. Chapitre 3, verset 1, on est à la moitié, on va essayer d'accélérer peut-être un peu. Il parle de l'église de Sardes. Sardes, c'est le reste. Le mot, ça veut dire ça. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, c'est historiquement, on voit que c'est l'Église qui est née de la Réforme. Donc tout à l'heure on parlait mal des cathos, maintenant c'est les protestants qui vont en prendre pour leur grade. L'Église protestante issue de la Réforme, elle a la réputation d'être vivante, mais des fois elle peut être morte. Sois vigilante, affermis le reste. Le mot sarde vient de, c'est la même chose, un reste. Parmi les protestants, ce qu'on appelle les grandes dénominations, l'Église réformée, l'Église luthérienne, l'Église calviniste, tout ça, il y a des gens qui ont la foi réelle, qui sont comme un reste. Mais elles doivent se rappeler comment elles ont entendu la parole. Sinon, Jésus peut revenir les surprendre comme un voleur. Il y a aucun compliment. Par contre, il y a des reproches, il y a une méthode une correction, comment corriger la situation. Et il dit encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a des gens sauvés dans ces églises, traditionnelles. Il est question du livre de vie, on en a parlé déjà. Là, c'est comme si lorsque une personne naît, son nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que l'option, ce n'est pas d'avoir son nom inscrit, c'est d'avoir son nom qui n'est pas retiré. Donc ça correspond mieux quand on regarde les différents passages. Pensez que Dieu nous donne le bénéfice du doute. Il nous inscrit dans le livre de vie et c'est nous qui allons... En le rejetant, en ne vivant pas comme il le veut, en disant non, je ne crois pas en lui, qu'on va être retiré. Et là, il va confesser le nom de ceux qui étaient dans le livre de vie et qui ont continué dans la bonne doctrine, qui ont reçu et entendu la parole, qui la gardent et qui se repentent. Puis les questions de l'église de Philadelphie, Alors ça, la période de l'église de Sardes, c'est de la réforme, donc au XVIe siècle, si on voit les choses historiquement, jusqu'à au début du XIXe siècle, même fin du XVIIIe siècle, parce que l'église de Philadelphie, c'est l'église missionnaire moderne. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, le mot de Philadelphie, ça veut dire l'amour des frères. Philadelphos, Philéo Adelphos. Voici ce que dit le Saint le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est l'Église qui a suivi les mouvements, qui ont suivi un retour à la parole après que l'Église réformée, les églises traditionnelles, les grandes dénominations se sont un peu endormies. C'est l'Église évangélique, c'est l'Église, surtout l'Église missionnaire qui a commencé les grandes missions au début du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Et c'est aucun reproche ne lui est adressé. C'est l'Église qu'on aimerait tous imiter, ou on aimerait bien se faire appeler une église de Philadelphie. Vous avez remarqué qu'on peut tous être un mélange de toutes ces églises. Et il y a des choses à... Les conseils qui sont donnés, il faut les écouter. Écoutez ce que Jésus a dit aux autres églises pour pouvoir corriger ce que vous faites qui n'est pas bon. Il met une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et c'est merveilleux, j'aime bien, j'ai souligné ça, c'est ce verset 8. Je mets une porte ouverte devant toi parce que tu as peu de puissance. L'Église qui réalise qu'elle est faible sans Jésus, elle va être puissante parce que Jésus va agir. Il va ouvrir les portes. Alors que l'Église d'Éphèse, plutôt l'Église plus loin, il sera l'Église, question d'une Église qui se croit riche mais qui en fait est misérable. L'Église qui sait qu'elle est en elle-même, elle est faible, elle ne compte pas sur ses moyens, sur ses gens qui ont reçu des formations spécialisées dans des domaines pointus, qui ont un plan de croissance, etc. Cette église-là, ce n'est pas celle dont il va, pour laquelle il va ouvrir les portes que nul ne peut fermer. Et puis, il y a une promesse très intéressante. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » L'Église qui est fidèle à Jésus, qui peut se reconnaître dans ses descriptions, elle ne passera pas par la grande tribulation. Le verset 10, est une description de la grande tribulation, de la période de la grande tribulation. Et on peut dire que l'Église, la véritable Église, ne va pas passer par cette grande tribulation. On va voir qu'elle va être enlevée, qu'elle va être au ciel. Lorsqu'on abordera le chapitre 4, l'Église, la vraie Église, la véritable Église, qui se reconnaît dans cette Église de Philadelphie, elle est au ciel avec Jésus. Et elle ne subira pas la grande tribulation. Elle a aussi, dans la Nouvelle Jérusalem, elle aura une place particulière. Chaque individu sera comme une colonne là-dedans. Et donc, c'est l'Église qu'on aimerait être. Et puis, il y a une dernière Église, verset 14. écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Une phrase qui revient souvent. Dieu n'est pas dupe, il sait bien ce qui se passe. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais dégueuler. Voilà. Alors, je dis ce terme un peu grossier, parce que c'est ce que veut dire l'expression en grec. C'est ce qu'on disait, je vais te vomir de ma bouche, c'est pas... Et... possible d'être mal poli comme ça dans une église. Non, Dieu, c'est Dieu qui dit ça, c'est Jésus qui dit. Si vous vous comportez comme ça, moi, ça va me faire rendre, je vais vomir. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais que tu n'es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je me souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'oreille ici? On a tous des oreilles, même si je pense à Jennifer qui a un handicap, elle peut écouter, elle peut entendre et elle comprend. On est tous à même de recevoir le message que Dieu nous donne et de le mettre en pratique. C'est le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Et il a le mot Laodicée, ça vient encore de ceux qui dirigent le peuple d'Issée, c'est Dulcere, c'est diriger. Laos, c'est le peuple. C'est aussi une église où il y a des gens qui sont les patrons, qui sont peut-être riches, etc. Historiquement, on pense que c'est l'église apostat des derniers temps, qui est peut-être parmi nous déjà, par certains aspects. Et c'est vrai que dans certains pays, il y a des églises qui sont riches, qui se disent qu'elles ont besoin de rien, ils peuvent faire des programmes de radio, c'est pas mauvais en soi, mais ils peuvent. Le problème, c'est de compter sur les moyens, les ressources matérielles, physiques, financières, au lieu d'avoir l'humilité. Et Jésus est prêt à reprendre et à corriger. Et on chante ce chant, purifie-moi, acheter de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. C'est-à-dire que ce n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse spirituelle. Un collier pour oindre tes yeux. Là aussi, c'est l'idée d'avoir... Laodicée, pardon, était célèbre pour ses... pour un collier, un onguent, une pommade qui pouvait guérir certaines maladies des yeux. Et il dit, vous avez besoin de mettre cette pommade, vous avez besoin de discerner quelle est votre véritable situation. Et puis il y a cette chose, verset 16, 15 et 16, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Historiquement, la ville de Laodicée, c'est une ville qui se trouve près de Colosse et de Hiérapolis, au centre de l'Asie mineure. Il y avait de l'eau qui arrivait à la ville. Il y avait des sources chaudes qui étaient en dehors de la ville, qui venaient jusqu'à la ville par des canalisations. Mais quand l'eau arrivait, elle était plus chaude. Il y avait aussi des sources froides, mais quand l'eau arrivait, elle était plus froide non plus. Et j'étais toujours surpris par ce verset. Je me disais, être tiède, c'est pas si mal, parce que quelque part, il y aura besoin de moins de chaleur pour qu'on soit bouillant. Mais Jésus dit, moi je préférerais que tu sois froid ou bouillant. Mais la tiédeur, ça me dégoûte, littéralement. Alors comment vous expliquez ça? Pourquoi est-ce que Jésus préfère froid que tiède, par exemple? Vas-y.
Moi, ce que je vois, c'est spirituellement qu'ils se disent, on connaît le Seigneur, et en fait, au fond d'eux, ils s'en foutent. Ce qui fait chaud et froid, ça fait tiède. Que complètement, ils se disent, oui, on est loin du Seigneur, on est froid, et là, il peut travailler. Ou chaud, vraiment, on travaille, on est missionnaire, on travaille, on est là-dedans. Voilà. Moi, je vois ça comme ça.
Je crois que c'est... Vous êtes d'accord avec cette idée que quand on est froid, il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'on est le bon chrétien, le bon païen lambda. On n'a jamais entendu parler de Jésus. Ou alors on est fâché parce qu'en fait, la parole de Dieu nous travaille déjà. Et donc, il y a cet espoir que si on est froid... Mais c'est vrai que la tiédeur de penser qu'on connaît, on est des bons chrétiens, on fait rien du tout pour le Seigneur, mais on fait le signe de croix quand on rentre dans une église, on fait des choses. Ça dégoûte le Seigneur parce qu'il a fait... Il y a une vie abondante pour nous, pas une vie mitigée, moyenne. Il veut qu'on réagisse. Et il dit, je préfère, encore une fois, comme tu l'as dit, je crois que c'est l'idée, si vous êtes complètement froid, il y a encore de l'espoir. Parce que quand vous allez entendre la vérité, vous avez un tempérament entier. Mais les gens qui sont toujours, oh, ben ça va, faut pas prendre l'accent suisse, les pauvres Suisses, ils sont pour rien. Mais les gens qui sont ni pour ni contre, c'est les pires. Parce que quand il y aura des persécutions, ils seront contre vous. Quand il y aura des choses à ce moment. Et Jésus nous dit, je préfère que vous ayez un tempérament entier. Il y a aussi, on va terminer par là, ce fameux verset 29, qui est le verset favori des évangélistes. Hein. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand il est utilisé tel quel, comme ça, il n'y a rien à redire, je crois que c'est vrai. Mais dans le contexte, qui est ce passage, il est seulement cité dans... Plutôt, on le trouve seulement dans ce passage de l'Apocalypse, verset 20 du chapitre 3, pardon. Mais en fait, l'image, c'est que Jésus est à la porte de l'Église. Il frappe, et ça veut dire qu'il n'est pas dans l'Église. On peut être dans des églises, notre église pourrait être une église où il y a des activités, mais Jésus est sorti. Il n'est même plus là. Et on continue, on fait des bulletins, on fait des réunions, on donne la dîme, on fait des finances, on fait des réunions. Et Jésus dit, mais attendez, je peux revenir? Et ce qu'il nous dit, c'est aussi que si quelqu'un, un individu peut entendre sa voix, et encore une fois, on a tendance à dire, bon, ben, tous les catholiques sont perdus, tous les personnes dans les églises de la prospérité, ce qui fait penser, on est riche, chaque individu peut accepter le Seigneur, peut ouvrir son cœur, et il vient dans l'intimité, il vient sauver, il vient vivre dans l'intimité. Et le vainqueur, il régnera avec Jésus sur le trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors donc, encore une fois, c'était des églises qui ont existé historiquement. Ces messages et sans doute leur histoire locale faisaient allusion à ces événements dont on a parlé pour chacune d'elles, qui ont donné lieu à des compliments, des encouragements, des reproches, des corrections, etc. Mais ce qui est formidable, c'est que dans l'ordre géographique où on les lit, ça correspond aussi à l'ordre historique des grandes périodes de l'histoire de la chrétienté. Et ça décrit aussi des travers et des qualités qui, à chaque époque, peuvent se retrouver dans toutes les églises, dans tous les mouvements. Et Jésus nous dit, vous avez des oreilles? Alors, écoutez. Et si vous mettez en pratique ce qui est écrit, alors vous allez être heureux, vous allez être béni. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des... Je sais qu'il est tard, on a dépassé un peu le temps. Est-ce qu'il y a des questions sur, sur ce qu'on a vu? Donc il y a cette première partie, j'ai oublié de dire une chose, c'est que le plan de l'Apocalypse, il est donné au chapitre 1, verset 19. « Écris donc ce que tu as vu. » Ça, c'était le chapitre 1 où il expliquait sa vision. « Ce qui est, c'est l'âge de l'Église, c'est les sept églises. Et puis ce qui va se produire ensuite, c'est, ça va être le début du reste de l'Apocalypse au chapitre 4, verset 1. C'est « Après ces choses ». « Meta tauta » en grec. « Après ces choses, après cela, je regardais. » Donc, on va voir ce qui va se produire ensuite. Donc, on va rentrer vraiment dans la période, dans la partie prophétique de la fin des temps. Et là aussi, on va avoir des choses très instructives sur la suite de l'histoire de l'homme et dans sa relation avec Dieu.